Donc Alex Masson, vous faites partie du jury de la Caméra d'Or cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation d'une journée pour vous qui faites partie donc du jury, qui, je le rappelle, en fait, circule entre les différentes sections pour découvrir les premières œuvres et décerner le prix
de la Caméra d'Or, voilà. Qui donc... C'est plus à la semaine qu'à la journée en fait, parce qu'on a un nombre de films dont toutes sections confondues, il y a une vingtaine de films cette année, ce qui est pas beaucoup. Paradoxalement, d'habitude c'est plutôt 30-35. Et donc on court, en gros, on va d'une section à une autre en fonction des projections. Bizarrement, pas forcément en même temps que le reste de la presse. C'est-à-dire qu'on peut la presse peut voir un film à la compétition un jour, mais on va peut-être le voir deux jours après. Mais le principe, c'est d'ici vendredi de les avoir tous vus. Comme on a tous des occupations à côté, voilà, il arrive parfois que certaines personnes du jury aient à voir d'autres films au même moment où il y a des projections de la Caméra d'Or, simplement pour faire leur boulot. Donc on s'arrange. Genre qu'il y a une organisation où, en gros, on est à l'école. On leur dit, voilà, chef, est-ce qu'on peut aller voir tel film à tel jour, à tel endroit? Et puis on se débrouille après via l'organisation qui est vraiment extrêmement plaisante et qui nous encadre. On a vraiment... Il y a deux personnes qui nous gèrent, c'est des nourrices, quoi, c'est des nounous. Et qui nous file des billets quand on a besoin d'aller voir autre chose. Donc le principe de toute façon, c'est qu'à la fin, tous les films aient été vus par la totalité du jury pour pouvoir délibérer.
Et donc, est-ce que vous êtes aussi en charge d'autres obligations par rapport à votre métier de critique?
Oui, je travaille un peu pour notre radio ici, j'écris sur certains films de la compétition, mais c'est quand même plus calme que les années précédentes, parce que du moment où les gens ont su que j'étais en juré, ils ont allégé la charge de travail.
Et le Festival de Cannes, vous le suivez depuis quelle année, quelle époque?
Je vais faire mon vieux crouton. Là, mon premier festival en tant que spectateur, c'est 85. Et mon premier en tant qu'accrédité, c'est 89. Donc ça fait, faites le détail, ça fait 22-23 ans.
85, vous venez en tant que cinéphile ou vous avez déjà un pied dans la profession?
Non, pas du tout, j'avais 16 ans.
Alors quelle image vous en gardez de ce premier Cannes?
C'était très curieux parce que c'était la fin de l'ancien Cannes, c'est-à-dire que l'ancien palais venait d'être démoli, le nouveau n'était pas tout à fait reconstruit encore. La seule chose que j'ai vu ne pas bouger entre-temps, c'est la masse de gens avec leurs escabeaux qui attendent des stars devant les marches, ça c'est immuable. Après la première année et à l'âge, enfin adolescent, et surtout sans être accrédité, ça a un côté à la fois très frustrant parce qu'on est là sans y être. Quand il y a un côté, on est là, mais on n'a accès à rien. On a accès juste à voir les gens qui passent et c'est tout. Ça change tout quand on est accrédité. Il vaut venir à Cannes quand on a quelque chose à y faire. Si on n'a rien à y faire et si on n'est pas accrédité, ce ne sont que des frustrations. Ou alors, il faut être très très doué en système D pour pouvoir récupérer des passes, des badges, machin, etc. Mais il vaut mieux être là accrédité et bien accrédité plutôt que pas.
Et donc, peut-être le premier fantasme réalisé à Cannes, enfin l'envie qu'on avait de venir à Cannes, et là vous dites, ouais, ça y est, j'y suis, j'ai fait, c'était quel souvenir hein?
Alors, pour tout raconter, j'ai fraudé. C'est-à-dire que c'était le premier festival, c'était l'époque où les badges d'accréditation n'étaient pas encore aujourd'hui numérisés, informatisés, contrôlés, c'était des gros cartons de couleurs. Et moi je suis arrivé ici, j'étais accrédité en jaune, qui est donc la classe la plus basse. J'en étais très content parce que j'y avais enfin accès, mais c'est la classe la plus basse, on ne rend pas forcément à tout. Et j'ai fraudé et je suis allé en papeterie et j'ai acheté un bloc de papier assez épais bleu que je suis allé faire photocopier et plastifier avec ma photo dans un truc à côté du Monoprix qui n'existe plus. Et ça a marché. J'aurais pu me faire griller, mais ça a marché. Après, il m'arrivait aussi de frauder un peu, genre de passer par les anciennes coursives d'arrière de palais pour être dans certaines projections qui n'existent plus aussi. Il y avait un côté. Assez rigolo sur le côté de la trouille d'être là, un truc très adolescent en même temps, et de se dire ça y est, je fais partie du truc, je fais partie du sérail, ce qui est complètement faux parce qu'il ne faut pas oublier que Cannes c'est aussi la république bananière de l'ego pendant 15 jours, c'est un truc purement fictif qui existe pendant une dizaine de jours mais qui après se disparaît totalement. Mais il y avait un côté, ouais, se dire à la fois ça y est, je fais partie de ce milieu là ce qui est totalement vain, mais il y avait un côté d'appartenir à un truc qui fait rêver, fantasmer, ça c'était plutôt bien.
Et alors maintenant vous accédez au poste de jury, oui, de la Caméra d'Or, comment ça arrive,
c'est tout simple.
Vous pouvez expliquer,
c'est tout simple, il n'y a pas de mérite à ça, c'est-à-dire que le jury de la Caméra d'Or, il est constitué d'une personne qui est nommée par la CST, donc la Commission supérieure et technique, qui nomme donc généralement un directeur de labo ou un opérateur, des choses comme ça. Il y a l'association des chefs opérateurs qui nomme une personne. Gilles Jacob choisit une personne, désigne aussi Thierry Frémaux, désigne aussi le président. Après, il y a un critique, mais pas forcément toujours. Et il y en a un autre qui est le représentant du syndicat français de la critique, en l'occurrence, moi. Mais ça se passe par vote. Il suffit de postuler. J'ai eu le bol, jusque cette année, vu que ça, c'est pas trop, il n'y avait que 3 postulants. Et que le bureau qui a voté ne connaissait pas beaucoup les 2 autres personnes. Et c'est tout, quoi. Genre qu'il y a...
Mais c'est aussi un travail de longue haleine, se faire connaître dans le métier, être présent.
Oui, mais... Oui et non, dans la mesure où... c'est assez complexe, finalement, comme question. Mais oui, il y a un petit peu de ça. En même temps, quand on est critique, au bout d'un moment, on fait ça forcément sur Paris. C'est un vase assez clos. Donc, on croit souvent les mêmes personnes. Donc, au bout d'un moment, on connaît les gens. Donc, après, c'est à chacun de... C'est pas à moi de dire, par exemple, si j'ai été choisi parce que des gens estimaient que j'écris bien ou pas bien, ou que ce que je fais, je mets mon boulot ou pas. Ça, c'est pas à moi de dire. C'est peut-être à eux, il faut leur poser la question. Mais faire son trou dans ce métier-là, au moment où je commençais à faire ce métier, donc il y a plus de 20 ans, au moment où je suis arrivé à Paris il y a plus de 10 ans, c'était possible. Aujourd'hui, avec la multiplication des médias, avec la multiplication... Genre qu'aujourd'hui, tout le monde peut être critique. Des supports. Mais aussi la déperdition des supports classiques, genre que la presse cinéma en papier, aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. C'est-à-dire qu'on voit bien que majoritairement, c'est des petits articles et que très souvent, les journaux de cinéma généralistes, type Première, Studio et autres, sont quand même plus souvent une espèce de branche de marketing supplémentaire des majeures compagnies plutôt que des états critiques. Il y a très très peu de support aujourd'hui, on peut faire un exercice réellement critique. Il reste 2-3 endroits, 2-3 journaux comme Les Cahiers, comme un peu Technicart, comme Positif, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, la notion de critique, c'est un exercice qui est très très compliqué à faire parce qu'il y a des impératifs économiques dans le journaux de cinéma. Donc faire son trou aujourd'hui, ça devient... Je pense que j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là, à une époque où la presse écrite avait encore une réelle reconnaissance et où l'impact de la critique avait encore une reconnaissance qu'elle n'a plus aujourd'hui et qu'elle devrait tout faire pour reconquérir et réinstaller.
Et pour revenir à la Caméra d'Or et vos compagnons de séance, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez des réunions tous les jours? Et comment le feeling se passe aussi avec le président du jury? Vous avez des directives parce que vous venez de divers univers.
On essaye au maximum de voir les films ensemble. Pour justement être dans une forme d'esprit, de camaraderie ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des films qui plaisent et d'autres pas. C'est pas donc toujours possible parce que certains ont nos emplois du temps variés. On a eu pour l'instant une prédélibération pour écrémer un peu parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Donc on a déjà éliminé certains films dont on sait qu'on ne les prendra pas. Il en surnage quelques-uns. On n'a pas encore tout vu. Il y aura une autre prédélibération probablement demain et il y aura la délibération dimanche matin. Pour le reste, après, ça se passe plutôt en camaraderie, mais ça dépend chaque année des jurys et des gens. Bong Joon-ho, qui est donc notre président cette année, déjà, on a un souci, c'est qu'on ne parle pas coréen. Lui, oui. Donc, pour l'instant, on passe par l'anglais, mais qui a un anglais un peu limité de son côté et d'une autre. Il y a des moments où il y a une traductrice qui vient. Là, forcément, ça marche beaucoup mieux. Mais pour l'instant, ça se passe de manière très plaisante. Mais je sais qu'il y a des jurys, par exemple, les années précédentes, qui, eux, étaient tout le temps ensemble, faisaient la bringue ensemble, se voyaient en dehors des trucs. Nous, pas tant que ça, mais ça reste...
Vous êtes nombreux.
On est 7. Mais c'est extrêmement courtois. C'est assez chaleureux. Mais on n'est pas dans le fantasme là aussi des jurés copains comme cochons qui se tapent dans le dos et qui sont tout le temps ensemble. Mais d'après les premiers débats qu'il y a eu, ce qu'on sent c'est qu'il y a quand même une écoute, que chacun est à l'écoute de l'autre, des arguments des autres qui sont très variés, très différents. Il y a vraiment des avis très tranchés et parfois contradictoires, mais il y a une sorte d'écoute mutuelle qui est là et qui me paraît plutôt bienveillante envers les films. C'est-à-dire que même pour l'instant des films qui ne sont pas aimés par la majorité du jury, on les a pas forcément éliminés tout de suite en disant attendons de voir. C'est pas parce qu'un film ne nous plaît pas forcément que il va pas arriver derrière.
Mais un film se juge aussi par la totalité de
par la globalité de la sélection, par la globalité de ce qu'il est, pas uniquement sur le ressenti immédiat, parce qu'il y a des films qui ont des sujets très forts cette année et qui peuvent amener des situations de rejet ou d'adhésion tout de suite. Sauf qu'avec le 2-3 jours de recul, parfois, on se dit « Ah, finalement, peut-être que... » Et je trouve qu'à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Il y a un côté bonne entente qui fait que je crois que, quel que soit le prix qu'on donnera, il sera totalement assumé et il sera fait ouais, une espèce de bienveillance envers les films.
Et là, au 8e jour du festival, vous la sentez comment cette année? Est-ce que vous avez déjà un qualificatif?
C'est complexe.
En dehors de la caméra d'or, est-ce qu'il y a des choses?
Non, c'est assez complexe parce que sur le papier, c'était extrêmement brillant, extrêmement séduisant. Et à voir les films pour l'instant là, alors sachant que moi, j'ai pas vu beaucoup. J'ai vu quelques films de la compétition, quelques films d'un certain regard, beaucoup en quinzaine et quasiment tous ceux de la semaine. Mais donc, j'ai pas la globalité. Pour l'instant, il n'y a pas un film qui ressort réellement. Il n'y a pas une chose où je me dis, c'est une évidence. Il y a des choses, je me dis qu'il y a des côtés de miscast, il y a des films, je me suis dit, tiens, c'est bizarre que ces films-là soient dans cette section alors que je les aurais mieux vus ailleurs. Mais ça, c'est après, c'est des questions de goût. Mais j'ai pas encore vu, j'ai vu des films qui me plaisent. Je trouve que le niveau est quand même assez haut depuis le début. Mais il manque pour l'instant un film où je me dise, ah ouais, quand même, là on y va. Après, il y a des choses hors premier film, puisque ça, bah, évidemment, j'ai un droit de réserve, mais des choses comme le Terrence Malick, je trouve ça assez impressionnant. Un film comme Corpo Céleste, qui a la crème des réalisateurs, je trouve ça assez étonnant. Le Valérie Donzelli est assez fort. Police, certes avec des maladresses et une certaine démagogie, est assez énorme aussi. Après, ce qui se dégage de manière très très curieuse, c'est que à la conférence de presse, Thierry Frémaux avait annoncé un côté peut-être un peu plus léger, peut-être un peu plus de détente. Or, on a quand même que des films qui parlent de rapports parents-enfants compliqués, de pédophilie,
de maladie,
de rapport à la mort. C'est quand même pas la fête du slip, quoi. on n'est pas dans l'enthousiasme complet. Genre que s'il pouvait filer un cachet de Prozac à la fin du festival pour qu'on reparte, ça serait pas mal, quoi.
Et pour finir, alors une anecdote d'un Cannes qui restera ancrée pour toujours dans votre mémoire et avec qui vous pouvez partager avec les auditeurs de PFM.
Il y en a tellement parce que tout est possible ici. Moi, il y a une chose qui me saisit cette année particulièrement, c'est que c'est la première fois en donc 25 ans de festival ou un peu plus que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur du festival, à savoir l'affaire DSK, qui arrive dans le festival où les gens ne parlent que de ça. D'habitude, c'est vraiment ici. On est dans un espace clos qui n'existe que pendant 10 jours.
Et
il pourrait se passer une révolution à côté. On ne le saurait quasiment pas. Là, c'est la première fois qu'il y a un truc où d'un seul coup, tout le monde, en tout cas, tous les Français évidemment, ne parlent que de ça, au point que dans la presse cannoise, puisqu'il y a plusieurs journaux qui apparaissent ici, on voit même qu'il y a des pages que la place à Prodé à Cannes diminue. Il y a des papiers qui devaient passer qui ont été supprimés pour la place à l'affaire DSK. Et ça, c'est un truc qui me sidère. Après, pour une anecdote plus... Il y en a tellement... je me rappelle d'une année où c'était assez... faut oublier qu'il y a aussi des fêtes ici et que parfois on y va. Et je me suis retrouvé dans une soirée qui devait être une soirée de lancement d'Armageddon, de la grosse production avec Bruce Willis, et qu'il y avait Alan Parker qui était là. Et que j'étais torché et que je suis allé voir en disant « Monsieur Alan Parker, Midnight Express is the biggest shit I ever seen. » Je déteste Midnight Express. Le mec m'a regardé bizarrement. Il n'a rien dit, il est parti. Et après, il y a deux vigiles qui sont venus me dire « Monsieur, pour vous, la soirée est finie, veuillez sortir, s'il vous plaît. » Et on sort de là en étant assez fier d'avoir dit... J'ai dit à Madame Parker que son film, j'en avais rien à foutre. Et en même temps, un peu péteux, parce qu'à un côté, on a fait le kéké, on s'est fait jeter. Quoi. Et ça arrive tout le temps ici.
Merci, Alex.
Mais de rien.
Bonne fin de festival.
Oh, oui.